Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Bonjour, sur les docks du documentaire sur France Culture. Aujourd'hui, deuxième volet de la collection Passeurs de réel. Cette nouvelle série se propose d'être un trait d'union entre radio, cinéma et télévision en allant à la rencontre de cinéastes travaillant sur le réel, ce qu'on appelle les documentaristes. Eyal Sivan, cinéaste israélien, habité par l'histoire et le politique, est aujourd'hui notre passeur de réel dans un documentaire de Joseph Confavreux et Philippe Rouy.
Passeur de réel, Eyal Sivan.
Devant cette cour, les 15 chefs d'inculpation.
Né à Haïfa, grandi à Jérusalem, installé à Paris depuis 20 ans, Eyal Sivan est un documentariste dont le travail a parfois été pris dans de virulentes polémiques. Celle avec Paul Lanzmann après la sortie en 99 du film Un spécialiste, ou plus récemment celle qui a entouré la sortie de Route 180, fragment d'un voyage en Palestine-Israël, qui a valu à Eyal Sivan une passe d'armes devant le tribunal avec le philosophe Alain Finkielkraut, et surtout des menaces de mort sous forme d'une balle envoyée à son domicile, accompagnée de ce mot « la prochaine n'arrivera pas par la poste ». Mettre alors entre parenthèses ces affrontements pour observer de plus près le travail du cinéaste ne vise pas à euphémiser un cinéma profondément politique, ni à nier le côté parfois provocateur du personnage, mais à ne pas faire oublier au moins deux choses. D'une part, que le sale gosse du cinéma documentaire israélien est un de ses élèves les plus brillants. Eyal Sivan avait en effet seulement 23 ans quand son premier film, Akabat Jaber, sur un camp de réfugiés palestiniens, a reçu le grand prix du cinéma du réel, et depuis, il enchaîne les tournages. Iscor, Les esclaves de la mémoire, sur le système éducatif israélien en 91, Israland, tourné pendant la première guerre du Golfe, Itgaber, Le triomphe sur soi, film d'entretien avec le philosophe Yeshayahu Leibovitch en 93, Jérusalem, Le syndrome borderline en 94, et jusqu'à Route 181 qu'il co-réalise avec le cinéaste palestinien Michel Kleifi. Ensuite, que si Israël et Palestine sont bien au centre des films d'Eyal Sivan, son cinéma, obsédé par les crimes de l'histoire, ne vise pas à établir une inutile concurrence des victimes, mais bien plutôt à braquer sa caméra sur les bourreaux. Quand Sivan s'éloigne un peu du Proche-Orient, par exemple avec Itsemba Tsemba, Rwanda, un génocide plus tard, ou avec Pour l'amour du peuple, film construit à partir des archives de la Stasi, ce qui anime son questionnement, ce sont toujours les différents régimes et registres de justification du crime. Eyal Sivan est donc un cinéaste travaillé par l'histoire, le passé et ses formes privilégiées d'apparition à l'écran que sont le témoignage et les archives. En 99, sort Un spécialiste, portrait d'un criminel moderne, deux heures choisies et retravaillées parmi 350 heures d'enregistrement du procès d'Adolf Eichmann. Ronny Broman, ancien président de MSF et complice de Sivan, en est le co-auteur. Le projet du film Un spécialiste, Ronny Broman, il s'est élaboré à partir de la pensée de Hannah Arendt, mais à l'occasion de ce que vous avez appelé la découverte par Eyal Sivan des bandes vidéo du procès, 350 heures. Pourquoi est-ce qu'on les a découvertes si tard? Dans quelles conditions? Et pourquoi est-ce que l'État d'Israël a été assez négligent vis-à-vis de ces archives qui sont restées en friche, dont certaines sont perdues parce que vous avez travaillé à partir de 350 heures, mais au total, il y en avait 500, alors que le procès de 1961 était fondateur?
Oui, mais justement, c'est peut-être pour ça. Il était fondateur, il est devenu un grand moment des origines. Quand on parle de fondation, on parle d'origine, on parle de mythe. Alors qu'on s'entende bien, je ne parle pas de la Shoah comme d'un mythe, mais du procès à Eichmann comme un événement structurant pour la politique israélienne. Et c'est en cela qu'il a quelque chose de fondateur, ou plutôt de refondateur. Du coup, la réalité du procès lui-même était reléguée au second plan. Ça n'avait plus vraiment d'importance. C'était le fait que Eichmann ait été jugé en Israël, qu'à l'occasion de ce jugement, le sort des victimes des nazis, des victimes juives du nazisme, ait été exposé. C'est cette espèce de moment cathartique a effectivement été vécu comme tel par la société israélienne, mais au-delà, par bien d'autres. Après tout, c'est aussi à la suite du procès Eichmann que les procès de Francfort et d'autres procès de criminels nazis ont été conduits ailleurs qu'en Israël, en particulier en Allemagne. Donc tout cela a constitué, je crois, l'objectif de ce procès. Il a été atteint. Du coup, l'enregistrement vidéo dont la raison d'être était d'élargir l'audience, de faire de ce procès un véritable tribunal public dans les conditions modernes où il se tenait, n'avait plus le même intérêt, puisque déjà au moment où il a été tenu, il était diffusé de manière très large à l'échelle mondiale. Voilà donc une première raison. La deuxième, je crois qu'elle est plus technique, moins sociologique si l'on veut, et plus technique. Israël n'avait pas de système de télévision à l'époque, et ce tournage a été fait en vidéo par une société de production américaine, ce qui a entraîné le rapatriement de l'ensemble des bandes magnétiques de Jérusalem à New York à la suite de ça, puisque c'était la compagnie, la société de production qui avait organisé et financé le tournage, qui était propriétaire matériel des bandes, même si le contenu des bandes était, disons, moralement et peut-être même aussi juridiquement, la propriété de l'État d'Israël, puisque c'était le ministre de la Justice qui était évidemment l'ordonnateur de ce procès. Et puis enfin, quand les archives sont revenues en Israël, c'était vers la fin des années 70, elles n'ont pas été considérées comme intéressantes pour la raison que je disais, le procès Eichmann appartenait à l'histoire. Donc tout ça a été peu à peu laissé à l'abandon comme un vieux truc qui renvoie à une histoire révolue à laquelle finalement on ne s'intéresse plus vraiment.
Est-ce que vous pouvez décrire au tribunal quel air avaient ces enfants au camp de Drancy?
Eh bien, il est arrivé dans les camps, dans des autobus. Alors ces malheureux enfants étaient complètement désorientés, désaxés, et on les conduisait dans les chambres où il n'y avait aucun mobilier, où il y avait tout simplement des paillasses par terre, des paillasses sales, dégoûtantes et pleines de punaises.
רק אשאל אותך על זאת, מר ולר, כשאתה ב-44 הגעת לאושוויץ, האם אז ראית עוד איזשהו מהילדים האלה בחיים?
Quand vous êtes arrivé en 1944 à Auschwitz, est-ce qu'à cette époque vous avez vu quelques-uns de ces enfants encore vivants que vous avez rencontrés avant?
Oh non, évidemment pas.
Avec Yael Sivan, vous avez fait le choix, Ronnie Broman, de modifier ces archives, de les rééclairer, d'inventer certains mouvements de caméra qui n'existent pas. C'était à l'origine filmé par 4 caméras fixes. Vous avez complètement retravaillé le son à partir des enregistrements de la radio. Sur la cage en verre dans laquelle se trouve Eichmann, vous avez incrusté par ordinateur un reflet du public. Pourquoi ce choix de modifier des images d'archives?
La première raison est que les archives étaient en mauvais état. Enfin, les images vidéo étaient en mauvais état. Il y avait un bruit vidéo, des contours, des échos qui étaient très gênants. Et 80% du travail de restauration de ces archives, c'est du travail d'amélioration de l'image, élimination de ce bruit, de ces échos, plus grande précision des contours, avec pour seule ambition de fournir un confort visuel à des spectateurs qui sont aujourd'hui habitués à ce confort du fait de la qualité des images. La deuxième chose, c'est les mouvements de caméra, par exemple, et certaines incrustations que nous avons faites dans la cage de verre. C'est d'abord une idée de réalisation, mais je m'y associe totalement. Enfin, c'est Yael Sivan qui a eu l'idée de cela. Il voulait introduire, et je trouve qu'il avait raison, une sorte de grammaire de la fiction, c'est-à-dire la possibilité de faire des arrêts caméra sur les gens qui parlent au moment où ils commencent à parler. Donc c'est cette technique du champ contre champ qui est interdite au documentaire, puisque la caméra d'un documentariste est toujours en retard sur la personne qui parle, puisque c'est pas lui qui l'a fait parler. Et donc ces mouvements de caméra, ces incrustations nous permettent d'introduire un personnage au moment où il parle. Et bon, c'est la recherche d'un effet, enfin plus exactement d'un style qui nous renvoie à la tradition des grands films de procès. Et là encore, c'est parce que nous prenons le parti de faire de ce film un spectacle, avec une qualité d'image, une qualité de mise en scène. D'ailleurs, on se plaisait à parler de ce film comme une mise en scène d'archives. Donc notre ambition, c'était ça, c'était un trial movie, si on veut. Comme il y a des road movies, il y a des trial movies. Et la mise en scène, ces mouvements de caméra, ces incrustations, cette introduction de cette grammaire de la fiction, du chant contre chant, destiné à produire un effet dramatique au sens d'une mise en scène, pas d'accentuer le drame, c'était pas dans le pathos qu'on voulait aller, mais dans le drama au sens classique. C'est à ce service-là qu'était mis l'ensemble des trucages de l'image. Je sais bien que ça pose des problèmes, disons, déontologiques ou éthiques. Mais c'est ce choix-là qu'on a fait.
Oui, parce que là, on est 8 ans après la sortie d'Un spécialiste. Effectivement, au moment où vous faisiez ça, on vous a dit, voilà, vous ouvrez une boîte de Pandore. Et vous ouvrez une boîte de Pandore sur un procès emblématique dont vous faites un film. Le format 2 heures, alors qu'il y avait 350 heures, vous n'avez pas fait 6 ou 8, non, 2, la mise en scène, des images. Il y a quand même la question déontologique. On pourrait dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, on est plus naïf par rapport à l'image d'archives. On sait que des images d'archives ont été manipulées, on a appris à critiquer une image comme on critique un texte. Néanmoins, là, vous, il y avait une différence, c'est que vous le faites volontairement. C'est que d'habitude, les trucages sur les images sont des dissimulations. Vous, ce n'est pas une dissimulation. Est-ce que, 8 ans après la sortie de ce film, vous avez l'impression, Ronnie Broman, d'avoir effectivement ouvert cette boîte de Pandore que beaucoup de gens redoutaient ?
Non, je ne suis pas plus mal à l'aise 8 ans après qu'au moment où on l'a fait, mais sans doute est-ce dû au fait que moi, je ne suis pas un documentariste, je suis plutôt je suis un praticien de l'humanitaire et un essayiste, et je me suis plongé dans le documentaire à cette occasion-là.
Mais ça vous pose des questions philosophiques sur la vérité, sur comment on en rend compte, qui vous sont proches.
Oui, mais je pense que le statut, c'est vrai. Du coup, je ne peux pas écarter d'un revers de main cette question. Mais je dirais que notre parti pris étant clair, le film étant accompagné d'un livre dans lequel nous livrons l'intégralité à la fois du processus de fabrication, c'est-à-dire de la réduction de 350 heures à 2 heures, en donnant les raisons de nos choix, c'est-à-dire en gros l'algorithme, le processus mental par lequel nous retenions certaines images et nous en écartions d'autres, mais aussi en donnant la clé des différents trucages que nous avons faits. Moi, il me semble que nous sommes quittes avec les obligations, éthiques, concernant la vérité de l'image. Surtout que notre film n'est pas un reportage sur le procès Eichmann, mais se revendique clairement comme un essai politique à partir des images du procès. Nous n'avons pas l'ambition de restituer un événement historique.
Et d'ailleurs, il n'y a pas toute la pédagogie, on ne sait pas ce qu'il advient d'Eichmann, on ne sait pas comment il est arrivé là.
On ne sait pas comment il est arrivé là, on ne sait pas ce qui se passe après. Donc, ce parti pris de clarification de notre propos nous libère, me semble-t-il, d'un certain nombre d'obligations techniques. Et moi, je le pense avec d'autant plus de facilité que je suis tout à fait convaincu qu'on peut faire, à partir des archives telles qu'elles étaient là, c'est-à-dire brutes de décoffrage ou de brutes de transfert, si l'on veut, on pouvait faire un film propagandiste dans un sens ou dans l'autre. On aurait pu faire un film accablant pour Eichmann, un film dédouanant Eichmann par un simple processus de sélection, de mise en rapport, bref, de réécriture avec les éléments qui nous sont offerts. Et je trouve que la question de l'entrée dans les images est vraiment très, très secondaire par rapport à la question du montage, c'est-à-dire de l'édition des documents. À quel moment on coupe, à quel moment, qu'est-ce qu'on met avant et après, dire quelle phrase on écrit avec les différents éléments. Voilà, me semble-t-il, le vrai problème que pose le remontage des archives pour en faire un film. Et s'il est vrai, je ne peux pas refuser de prendre en compte les critiques qui nous sont adressés quant à notre façon d'entrer dans les images et d'en changer une partie du contenu. Mais encore une fois, ma réponse est que l'intégralité de cette entrée figure dans un chapitre de quelques pages de notre livre et qu'il est donc facilement, il est facile de reconstituer tout cela.
Direkten physischen Vernichtung nichts zu tun hatte. Mir reichte allerdings schon der Teil, zu dem ich befohlen war. Für diese Arbeit hinterm Schreibtisch im Dezernat, meinen Dienst eben geleistet, wie das befohlen war. Ich habe auch nie irgendwie einen Verweis bekommen, dass ich meine Pflicht nicht erfüllt hätte. Das muss ich auch heute noch sagen.
Pourquoi cette dernière scène où subitement donc, tout le dispositif du procès, de la mise en spectacle du procès Eichmann s'efface, c'est-à-dire que disparaissent par un procédé informatique et numérique les gardiens, le tribunal, la cage en verre, et puis d'un coup Eichmann se colorise alors que tout le procès est évidemment noir et blanc, ce qui fait qu'on... Le message est assez clair. Eichmann pourrait être, du coup, après, il a une tête de n'importe quel petit bureaucrate. Est-ce à dire que forcément, on peut actualiser la signification d'un procès comme celui-là et que, du coup, il faut tirer des leçons de l'histoire ou des leçons des archives et que les leçons seraient... Tout est actualisable.
Oui, c'est une façon de faire sortir Eichmann... de sa cage de verre et de la circonstance très singulière où on le voit et de le rapatrier dans notre environnement. Mais moi, j'avais envie, mais c'était financièrement inaccessible, j'avais envie de coloriser tout le film. Si j'avais pu trouver les moyens, si on avait pu le faire, cette colorisation façon Eastman Color ou... des années 60-70, moi je m'y serais jeté. Mais bon, ça n'était pas possible. C'est-à-dire cette colorisation d'une demi-seconde à la fin, la disparition de la cage de verre et de l'environnement du tribunal, c'est une façon de nous mettre en face d'un personnage qui est encore parmi nous. C'est aussi, la ponctuation finale de notre propos qui court tout au long du film.
Mais l'analogie historique, le rapprochement entre le passé et le présent, c'est aussi une figure assez dangereuse, surtout quand on travaille sur des archives, non ?
Peut-être que si danger il y a, ce que je ne crois pas...
Mais parlant globalement des figures d'analogie historique, est-ce que ce génocide, c'est le même génocide ? Enfin voilà, on voit que ce que ça déclenche en termes de concurrence des victimes, de manière de nommer, enfin voilà, donc est-ce que c'était nécessaire simplement ? Est-ce que la force de ce procès a besoin de aussi dire, regardez, il y a une leçon à tirer qui est le danger du bureaucratisme et qui peut amener aussi à des meurtres de masse ?
Je ne sais pas si c'était nécessaire. Peut-être que on aurait pu se contenter de boucler ce film de façon beaucoup plus brutale. D'un point de vue de réalisateur, il nous a semblé préférable de donner à la fin une dimension particulière, c'est-à-dire de la traiter avec une écriture différente de celle que nous avons utilisée pour le reste, par exemple en faisant des plans de Eichmann d'un côté et de l'autre qui donnent l'illusion qu'il s'adresse à un auditoire circulaire tout autour de lui, en l'amenant à répéter des phrases qu'il n'a pas répétées, mais pour leur donner une assistance, en répétant des mots également, et puis finalement, dans cette courte montée dramatique, en le dépouillant des attributs de l'accusé, qui sont la cage de verre, le tribunal, et en le mettant comme un cadre derrière un bureau. Donc il y a là un effet dramatique que certains jugeront sans doute peut-être excessif ou considérant comme un manque de sobriété. Moi, je trouve que c'est aussi une façon cohérente d'assumer le fait que nous avons voulu faire un spectacle. Et ce spectacle, il passe par des artifices de mise en scène. Et d'une certaine manière, ça nous renvoie à ce dont nous parlions à l'instant, à savoir que, oui, nous sommes entrés dans l'image. Et d'ailleurs, à la fin du film, on montre jusqu'où on peut entrer dans cette image, jouer avec les profils, jouer avec l'environnement, le personnage. Ce qui est aussi une façon de signer notre forfait, si vous voulez, d'assumer totalement cette volonté, cette façon que nous avons adoptée de jouer avec l'image.
Liebe doch alle, alle Menschen.
Cinq ans après la sortie d'Un spécialiste, Audrey Morion, qui a monté ce film comme la plupart des documentaires récents d'Eyal Sivan, devient co-réalisatrice de Pour l'amour du peuple, un film à nouveau composé exclusivement d'images d'archives, qui accompagne et incarne la lecture d'un texte autobiographique d'un ancien officier de la Stasi.
C'est vrai que l'archive est pour Eyal une matière, un rush qu'il utilise comme s'il l'avait tourné lui-même. D'ailleurs, il constitue dans son fond personnel des archives puisqu'il filme beaucoup de choses qu'il n'utilise pas forcément dans les films en cours et qui deviennent la matière de futurs projets. Ce qui est intéressant avec Eyal, c'est que pour lui, l'archive n'est jamais sacrée. Elle est une sorte de territoire que d'autres ont déjà exploré et que lui réexplore pour lui donner un sens qui l'intéresse.
Est-ce que Audrey Morion, ses films Un spécialiste ou Pour l'amour du peuple, qui sont des films d'archives, sont des films d'histoire ?
Oui, puisqu'ils prennent en compte l'histoire, c'est un travail sur l'histoire, mais l'histoire pour Eyal n'est jamais quelque chose de figé, de purement didactique, c'est quelque chose qui doit remettre en question le présent, notre présent et notre action politique.
Pendant des années, nous avons constitué des dossiers sur quelques dissidents. Au bout d'un moment, ces dossiers représentaient plusieurs volumes. L'âme des dossiers, c'est la documentation exacte. Je veillais très rigoureusement aux preuves officieuses et officielles que nous avions traitées. Nous les classions par ordre d'importance et par secteur. À la couleur de la couverture, on connaissait immédiatement la valeur du matériau et le nombre des dossiers. J'étais fier de ces chemises en couleur. J'ai toujours maîtrisé mon matériau. Le dossier, c'est de notre mémoire et la plus puissante de nos armes. Ils ont choisi le jour du 40e anniversaire du ministère de la Sécurité d'État, la Stasi, pour me licencier. D'habitude, cette journée-là était l'apogée de toute une année. On l'appelait aussi la journée des tristes mines, car certains camarades repartaient les mains vides. Cette année, j'en suis sûr, j'aurais reçu la médaille du mérite de l'armée du peuple.
Le premier travail, ça a été un travail sur le texte d'ailleurs, d'écriture, de réel montage, puisqu'on avait un texte long, il fallait le réduire à quelques dizaines de pages pour que ça tienne sur un long métrage, avec une scénariste. Et ensuite, on a commencé à explorer tous les fonds d'archives existants grâce à cette documentaliste d'Allemagne de l'Est qui nous a beaucoup apporté, en nous focalisant sur les images de la Stasi, bien sûr, les images de surveillance, mais aussi sur tout ce qui était images de l'armée, de la police, des documentaires expérimentaux de gens de l'Est. Notre seule volonté était d'utiliser essentiellement des images de l'Est et pas les images de l'Ouest. On voulait être à l'intérieur du système et donc avoir cette esthétique de l'Est et avoir aussi une esthétique qui soit aussi celle de la caméra de surveillance. Dans les films amateurs, par exemple, qu'on a utilisés, on choisissait plus volontiers les films où l'objectif était caché derrière un rideau ou un père qui observait ses enfants du haut d'une fenêtre, ou pour donner toujours cette impression paranoïaque du système. On avait envie de mettre le spectateur dans une position d'éveil, de curiosité, de confusion et toujours le faire qu'il se demande qu'est-ce que je suis en train de regarder, est-ce que c'est une image personnelle, est-ce que c'est une image qu'il aurait pu filmer, est-ce que c'est une image que les réalisateurs m'imposent, est-ce que cette image est vraie, est-ce qu'elle est fausse, qu'est-ce qu'elle raconte, est-ce qu'elle est d'époque, puisqu'on a même mis parfois des images du présent qui se mêlent aux images du passé. Donc c'était cette sorte de curiosité active qu'on avait envie de susciter. Et puis par ailleurs, c'est vrai que tout ce corpus d'images pouvait être le sien. Et on trouvait amusant d'essayer de chercher dans chaque silhouette la présence de cet officier ou la présence de ce qu'il avait filmé.
J'ai commencé au bas de l'échelle le métier de collaborateur opérationnel. Partout, la Stasi était sur la brèche car une action dirigée contre le parti et l'État pouvait se cacher derrière n'importe quoi. Nous voulions tous savoir, nous devions donc être partout.
Pendant l'écriture, pendant qu'on retravaillait le texte, déjà on a visionné, je crois, pas loin d'un millier d'heures venant de toutes sortes de fonds. À partir du moment où on avait sélectionné le texte en ayant en tête ces images, on a procédé à un premier montage qui était très illustratif. On s'est retrouvé, on avait quasiment toutes les images, toutes les situations qu'il nous racontait, et du coup on s'est retrouvé à quelque chose de complètement plaqué, un petit peu artificiel, trop beau pour être vrai en plus. Donc on frisait là le délit d'initié, en fait, ça faisait très étrange. Donc on a commencé à déconstruire ça et à travailler sur l'antinomie, sur ce que l'image pouvait nous raconter de ce que le texte ne nous disait pas, à essayer de chercher dans l'image les failles du discours de notre officier, ses mensonges. Une des choses qui nous a vraiment fascinés, c'est de voir ces dizaines d'heures de rush de caméras de surveillance en plan très très large, avec les commentaires de ces types qui regardent sans voir, qui ont l'impression de tout contrôler et qui ne contrôlent rien. Parce qu'effectivement, quand on est en haut d'une tour et qu'on regarde une manifestation, on ne peut absolument pas dire qui en fait partie, ni même combien de gens sont là et quels sont les leaders, les meneurs. Donc c'était assez étonnant de voir ces gens qui ont passé tant d'heures de leur vie, parce qu'ils passaient réellement 10-12 heures par jour derrière une caméra, à s'ennuyer, à fumer des cigarettes, en filmant des choses qu'ils ne comprenaient pas et dont ils ne connaissaient même plus la finalité au bout d'un moment. Donc c'était cette espèce de chose un peu absurde et en même temps complètement hypnotique et fascinante.
On vient d'entendre, Eyal Sivan, à propos de l'usage des images d'archives dans vos films, plusieurs personnes avec qui vous avez co-réalisé ou co-signé certains documentaires. Vous avez quand même pourtant débuté avec un travail en solo, qui a démarré jeune et avec un certain succès, puisque votre premier film réalisé à 23 ans, à Kabat Jaber, sur un camp de réfugiés palestiniens, a obtenu, il y a maintenant pile 20 ans, je viens de dire votre âge du coup, le prix du cinéma du réel. Mais que ce soit pour un spécialiste sur le projet Eichmann, dont Ronnie Broman est co-auteur, ou Route 181, que vous avez co-réalisé avec le cinéaste palestinien Michel Tlefi, et jusqu'à Pour l'amour du peuple, qui est donc un film construit à partir des archives de la Stasi qu'on a entendu, que vous avez co-réalisé avec Audrey Morion, vous êtes passé à plusieurs reprises d'un travail en solo à un travail en duo. Pourquoi ce pivotement, Eyal Sivan ?
Parce que la structure pyramidale de cinéma, c'est-à-dire tout en haut les réalisateurs et en bas les techniciens, pas sûr qu'elle me convient jusqu'au bout.
Attends, il y a des techniciens, même là dans les films co-signés
oui,
ou co-réalisés.
Oui, il y a des techniciens, mais justement c'est cette pyramide dans laquelle elle culmine dans un point qui est le réalisateur. Moi j'aime bien discuter, j'ai bien travaillé avec, et c'est vrai que quand j'ai réfléchi sur Pour l'amour de peuple, j'ai dit c'est logique que je signerai, je réaliserai les films avec la monteuse. C'est-à-dire il y a la réalisation et c'est fait en salle de montage. C'est peut-être ça les films de montage d'archives, c'est-à-dire c'est où on les réalise, dans quel espace s'est fait la réalisation, donc c'est fait en salle de montage, et on a signé ensemble le film. Avec Michel Kéfi, c'est une autre histoire. Avec Michel Kéfi, Route 181 existe parce que nous sommes deux. C'est-à-dire vraiment, c'est un voyage d'une réappropriation de ces espaces que nous appelons Israël, les Palestiniens appellent Palestine, et Michel et moi, on a appelé Palestine-Israël.
Alors justement, Palestine-Israël, vous avez fait quelques écarts, le Rwanda, la RDA dans Pour l'amour du peuple. Là, vous êtes en train de monter un film sur la Pologne, sur les jumeaux Kaczynski. Mais vous installez prioritairement depuis 20 ans votre caméra en Israël-Palestine ou Palestine-Israël. C'est-à-dire quand même dans le territoire du monde où il y a la densité de caméras la plus élevée de la planète. Pourquoi oui. Est-ce que vous ajoutez vos images à celles qui sont, toutes celles qui sont produites là-bas?
D'abord, je suis un fils de pays. Je suis un fils des pays et donc ça fait partie des cinémas patriotiques israéliens appelés à déplaire certains.
Patriotique, ce sera discuté par certains.
Non, le patriotisme au sens noble de terme. Et donc d'abord, c'était mon laboratoire de privilège puisque je ne suis pas sûr que je fais des films sur Israël et Palestine. C'est-à-dire j'ai toujours dit que voilà, c'est les matériaux qui me conviennent les plus dans lesquels je peux en parler des choses, qui m'intriguent, qui m'intéressent, qui me fascinent, qui me met en colère, qui est l'instrumentalisation de la mémoire par le politique ou les relations entre politique et mémoire. Et s'il y a un endroit dans lequel il y a des choses à dire, vraiment, sur instrumentalisation de politique, de la mémoire par la politique, s'il y a une part gigantesque de mémoire dans la politique comme une arme et tout, c'est en effet Israël dans lequel...
Mais vous craignez pas une forme de saturation? Parce que voilà, les images qui nous arrivent de là-bas, elles sont nombreuses, il finit par y avoir un brouillage, et du coup... avoir l'envie aussi de faire des documentaires sur des choses beaucoup moins connues, parce que malgré tout, c'est connu, même si c'est sans cesse à reconnaître.
Vous savez, j'ai quitté Israël il y a 20 et quelques années, Israël ne m'a jamais quitté. Et donc, je suis toujours là-bas. Depuis quelques années, je suis de nouveau physiquement aussi là-bas, puisque j'enseigne en Israël 6 mois par an. Et cette saturation, mais au fond, qu'est-ce que la saturation des images? Qu'est-ce que la saturation des conflits par rapport à la saturation de certaines personnes qui vivent depuis 40 ans maintenant sous occupation? Disons que, acceptons cette saturation des images, si elle peut apporter un petit soulagement de la saturation de la répression.
Comment se fait, Yael Sivan, la rencontre avec les personnages, les personnes qui deviennent des personnages qu'on voit dans vos documentaires? On a quand même souvent l'impression que la plupart du temps, vous débarquez sans crier gare dans la vie des gens, que ce soit des soldats sur un checkpoint, des ouvriers dans un chantier, des gens qui tentent d'échapper à une attaque aérienne à Tel Aviv. Est-ce que ça, c'est un principe de votre travail documentaire, cette absence de rendez-vous, cette manière de brusquer la rencontre, hein, quitte à bousculer vos interlocuteurs, parfois en allant jusqu'à la bagarre verbale, hein. Je pense par exemple aux ultra-orthodoxes du quartier de Mea Shearim dans votre film Jérusalem, ou alors dans Route 181, avec, un moment dans un barrage militaire où vous êtes vraiment en dialogue, enfin plus qu'en dialogue, quoi, en interpellation des militaires qui vous demandent de stopper votre voiture. Il s'agit quoi? De créer une tension qui sera ensuite la matière à capter, la vie à capter?
Non, il s'agit surtout de refaire les mêmes mouvements, la même présence que j'ai dans les quotidiens, et parfois je les fais aussi avec une caméra, c'est-à-dire en réalité d'un travail de duplication. J'ai vu comme ça ma présence en Israël et ma présence au monde. C'est-à-dire, moi, je fais partie de ceux qui souffrent que les gens ne se disent pas bonjour dans la rue, qui ne se parlent pas, qui ne se mettent pas en colère, qu'on rentre chez les boulangers à Paris et c'est « Oui, monsieur, bonjour, monsieur, ça sera tout, monsieur ». C'est quelque chose qui je ne comprends pas. Je comprends pas. Moi, avec le boulanger, j'ai envie de parler, comme j'ai envie de me mettre en colère devant le fonctionnaire et autres. Donc, c'est la même chose. C'est une présence dans le monde réel, parce que le cinéma n'est pas différent de ma façon de vivre. C'est-à-dire, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi les documentaires, parce que c'est une extension. C'est pas une rupture.
Mais c'est vrai que, du coup, en bousculant, les gens lâchent des phrases qui sont très, 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 très souvent loin du politiquement correct. Alors, il y a un effet Israël. Hein. C'est vrai que quand on les regarde de France et qu'on ne connaît pas Israël-Palestine, on ne mesure pas que les gens s'invectivent beaucoup plus, qu'on balance tout de suite beaucoup plus fort et plus vite. Mais du coup, je me demandais, après, ils vous donnent l'autorisation de diffuser tout ça ?
Mais oui, ils donnent l'autorisation de diffuser tout ça parce que je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, et on a dit beaucoup de choses, et des choses extrêmement méchantes sur ma personne, sur mes films. Mais moi, j'aime les gens que je filme. Je les aime tous autant que personne. Moi, je suis extrêmement, extrêmement touché par l'humain qui est derrière l'uniforme. Alors que quand il est dans l'uniforme sur les barrages, je m'adresse aux soldats. Aux soldats qui est sur les barrages, dans lesquels je n'arrive pas à comprendre, je l'ai dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous vous êtes habillé en soldat alors que vous êtes un humain. Et donc, ce n'est pas une rupture d'humanité, c'est une tentative, pour prendre une phrase d'un grand philosophe, de créer un monde commun. Moi, je suis, mais ça c'est vraiment peut-être une question culturelle, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui nous est arrivé, c'est-à-dire nous qui étions les orientaux de l'Europe en arrivant en Orient, qu'on est devenus les Européens de l'Orient. Et il faut se poser la question de pourquoi. Je pense qu'une partie de la Méditerranée m'a collé au corps et qui est que je suis beaucoup plus gêné, beaucoup plus effrayé d'une certaine forme de politesse, de courtoisie, que je la trouve des grandes vulgarités, plus que tout simplement les gens qui s'engueulent, qui se changent, qui s'insultent, mais qui peuvent s'asseoir après en se tapant sur l'épaule, en se disant « buvant un café ». C'est-à-dire toute personne qui la connaît, qui connaît un petit peu l'autre côté de la Méditerranée, connaît ça. C'est-à-dire, au fond, on est dans un jeu. Quand on est sur un plateau de cinéma, même si on est dans un plateau de cinéma documentaire, on gueule, on dit les choses. Comme un acteur, c'est des acteurs de documentaire. Pourquoi une autorisation ?
Des acteurs de documentaire.
C'est les acteurs.
C'est comme ça que vous appelez les personnes acteurs qu'on voit dans vos films.
Oui, je les appelle les acteurs de documentaire. C'est pour ça que quand j'essaye de définir, puisqu'on arrive toujours à cette question, alors dites-moi qu'est-ce qu'un documentaire ? Dites-moi qu'est-ce qu'un documentaire ?
Ben non. Pas encore posé, mais là.
Non, mais ben voilà, dites-moi qu'est-ce qu'est les documentaires ? Ben d'un côté, on a la mise en scène d'un réel, ça c'est la fiction, et de l'autre côté, on a la mise en scène avec les réels, et ça c'est les documentaires. Bon, voilà, ces deux rapports au réel, dans lesquels ce qui les reproche, c'est la question de la mise en scène, c'est-à-dire on est dans un film, vous savez, il y a un procès qui est célèbre, qui se déroule en ce moment en France, dans lequel je suis un des participants, et à un moment, la juge de la cour d'appel a dit « Mais dites-moi, Route 181, monsieur, c'est un documentaire ou un film ?» Et ça me rappelait un petit peu cette phrase que ma mère me dit souvent. Elle me dit « Bon, d'accord, tu as fait des documentaires, mais Yann, mais quand est-ce que tu vas faire vraiment un film ?»
Mais alors, quand même, Eyal Sivan, vos acteurs documentaires, puisqu'on peut les appeler comme ça, vous les aimez des fois jusqu'à les piéger. Si je reprends Route 181, vous avez un usage de vous les confronter au jugement de Salomon en leur disant « Mais alors, c'est qui la vraie mère ? Celle qui a accepté le partage de l'enfant ou l'autre ?» Donc évidemment, ils vous racontent le partage de Salomon et là, il y a un problème avec le partage de la Palestine. Est-ce que c'est, en même temps, c'est un peu rusé parce que le partage d'un enfant, c'est pas pareil que le partage d'une terre. Et un des personnages qui a participé activement à l'expulsion des Arabes en 1947-48 vous dit à la fin de l'entretien, je le cite, « Vous avez suscité des doutes chez moi, votre attitude, disons qu'elle est étrange, disons que vous soulevez votre vision des choses qui me semble différente de la nôtre. Mm-hmm. » Ce serait ça votre travail documentaire ? Soulever votre vision,
et
donc votre vision des choses ?
Et continuons, ça, je l'ai dit, c'est qui la nôtre ? Puisque je fais partie de ces nôtres. Alors ils répondent cette phrase extraordinaire qui est « Nous, c'est moi ». Et moi, je dis « Moi, c'est nous ». Mon travail, qu'est-ce que le travail des documentaires ? Le travail des documentaristes, c'est simplement non pas apporter la vérité, non pas apporter l'image totale. Faire l'œuvre totale, c'est simplement poser les cadres, et les cadres n'est pas poser une fenêtre sur le monde. C'est-à-dire les mensonges documentaires, c'est quand les documentaristes disent aux spectateurs, voilà une fenêtre sur le monde. Moi, je dis ouvertement, clairement, je pose quatre caches noires sur le monde. Et donc, ce n'est qu'un fragment. Et je demande un débat avec ces fragments-là que je propose. Il se trouve que peut-être dans ces fragments-là, il est posé à partir d'un angle qui est différent. Il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bon, ce n'est pas un jugement de morale. Il est ailleurs. Je me pose derrière et je dis, mais si on regarderait à partir de ces points-là, qu'est-ce qu'on voit? Et au fond, si on regarde la société israélienne, parce que vous avez donné l'exemple de la société israélienne, les Israéliens et les sionistes en général aujourd'hui, ils ont l'impression, ils pensent qu'ils pensent, si vous voulez. C'est-à-dire, si on prend les discours majoritaires, tout le monde dit la même chose, il a les mêmes arguments. C'est les Arabes qui n'ont pas voulu et c'est eux qui ont refusé la partition en 1947. Et on pourra prendre tous ces éléments qui sont des clichés presque. Moi, ce que je demande aux gens qui sont en face de moi, dans les documentaires, mes acteurs documentaires, c'est penser. Penser. Et donc, justement, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il dit, mais penser, mais c'est la même chose que je demande aux spectateurs. C'est penser, c'est la seule chose que je peux demander. Pas adhérer, mais penser.
Mais alors, en même temps, parce qu'il y a quand même un désir de vérité dans vos films, non?
Un désir de vérité?
Mais des fois, on a l'impression que vous le cherchez un peu à coup de dynamite.
Non, ce que je cherche, c'est confronter les idées reçues, les politiquement correctes, les affirmations, les clichés euphorisants, c'est-à-dire ces affirmations dans lesquelles on est tous d'accord, les confronter avec le même réel à autre chose. C'est-à-dire penser à rebus poil de l'histoire, on dit, c'est Walter Benjamin qui dit dans la septième thèse de l'histoire, c'est-à-dire écrire l'histoire contre le sens de poil, ben voilà, c'est ça que je cherche. C'est-à-dire, c'est dire qu'au fond, l'essence de continuer à fabriquer ces tonnes d'images que nous faisons, c'est-à-dire nous faisons des tonnes d'images et tout, mais c'est quoi l'essence d'ajouter encore des images aux images? C'est dire qu'il s'agit d'un petit changement d'angle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un processus dans lequel il y a des mois et mois des possibilités d'autres angles. Donc, on est dans la redondance et aussi dans les documentaires redondants. Et donc, il y a une lassitude. Vous savez, quand on vient faire un film documentaire, on vous pose la question, mais c'est quoi le sujet de votre film documentaire? Alors, vous dites, bah voilà, je vais faire un film sur des réfugiés palestiniens, par exemple. On dit, oh, ça, on a déjà fait. Imaginez qu'on avait le même rapport avec la fiction. Et on dirait, c'est quoi le sujet de votre film? Ah, ben, je vais faire une histoire d'amour. Ah, une histoire d'amour, on a déjà fait. C'est-à-dire qu'on aurait, on aurait plus eu de cinéma. Les documentaires, il est coincé dans une forme qui est la dictature de sujet. Moi, j'essaye de sortir de la dictature de sujet, justement. Je dis, mais évidemment, on a traité tous les sujets que j'ai faits. Ont été traités, ce n'est pas les sujets, c'est les points de vue qui sont différents. C'est confronté à ces points de vue. Alors bon, j'ai un caractère qui est un petit peu se dire, bon, là où l'eau stagne, il faut jeter de la pierre.
Voilà, et alors justement, sur ce caractère et ce cinéma, est-ce que vous prenez, Eyal Sivan, un certain plaisir à aller parfois cinématographiquement un peu trop loin? Je vais prendre quelques exemples en vrac, vous me dites, mais dans Israland, il y a un film où vous filmez un ouvrier palestinien, et finalement il est relégué au fond du cadre et au premier plan, mais qui prend un tiers de l'écran quasiment, il y a une grande soupière avec juste un couvercle avec deux colombes. Un autre exemple, c'est dans Jérusalem, le syndrome borderline, il y a une sorte de prostituée métaphorique qui se peint les seins qu'elle a assez énormes avec une peinture dorée, et vu les effets de montage, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec la mosquée Al-Aqsa qui domine Jérusalem. Et puis on va pas revenir sur cette polémique, mais dans Route 181, on vous a reproché la scène où un coiffeur à Lod évoque les massacres de 1948 commis contre les Palestiniens et qui ne peut pas ne pas évoquer à quelqu'un qui a un peu de culture cinématographique la scène de Shoah, où c'est un coiffeur de Tel Aviv qui, lui, évoque l'extermination nazie. Est-ce qu'il y a quand même un petit goût à aller dans cet excès-là, dans ce débordement, enfin, quoi, cinéaste borderline, ça vous dirait comme définition?
Bah, pourquoi pas la peinture? Pourquoi tout simplement considérer que Vous avez donné un beau exemple, la soupière en premier cadre, plus grande, avec deux colombes sur la table de salon, dans un camp des réfugiés, avec les réfugiés palestiniens qui est un petit peu en arrière. Bah ça, c'est regarder, c'est comme ça que je vois. Je vois comme ça. Je vois parfois les détails, mais tout le monde voit. J'ai une conscience aiguë de la façon que je vois. J'essaie de dessiner les cadres de cette façon-là. C'est-à-dire, mais tout d'un coup, je vois en premier plan quelque chose qui est plus important de ce qui est l'arrière-plan. Dans la fiction, on va construire des décors et on va amener des artisans pour vous faire des peintures et des lumières, etc. Et personne ne va reprocher à quiconque de l'avoir fait. Dans les documentaires, tout d'un coup, c'est considéré comme une provocation, comme une manipulation. Mais au fond, c'est ça notre métier. C'est la manipulation, c'est le travail de montage, c'est pouvoir raconter 100 ans en 100 minutes. Tout le temps, on le fait. Qu'est-ce que le procès Eichmann dans lequel on nous a reproché sur un spécialiste d'avoir manipulé les images d'archives, etc.
Reconstruit des mouvements
qu'est-ce
de caméra.
Qu'on a fait ? On a pris 9 mois de procès en 2 heures. C'est ça la manipulation première, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a décidé, c'est qu'on ne va pas montrer. Au fond, je suis pour révéler le métier, vraiment, pour donner les clés de lecture, pour enseigner dans l'école primaire, déjà, comme on enseigne de la littérature, comme on enseigne à lire et à écrire, enseigner lire l'image, aussi d'ailleurs écrire l'image, enseigner à le lire, c'est-à-dire dire il y a une mise en scène. Quand je mets la caméra bas et je filme quelqu'un, forcément, c'est un effet différent que quand je fais un plongé. Donc voilà, je joue avec la possibilité de dessiner. Alors vous dites, je fais des analogies, je joue avec ça. Mais bien sûr, c'est ma culture. D'ailleurs, personne n'a reproché à Claude Lanzmann avoir plagié Charlie Chaplin dans Les Dictateurs. C'est quand même un coiffeur juif qui est le premier rôle. Et tout. C'est lui qui est borderline. Pourquoi faire une œuvre dans laquelle il y a un coffre ? C'est ma culture, c'est mon éducation. Bien sûr que c'est. Je vois d'une façon analogique. Et si on me pose la question, mais au fond, comment vous quelle est cette mémoire qui amène tous ces sujets ? Bah, c'est l'analogie, la Stasi, le film Pour l'amour de peuple, qui est sur la Stasi, c'est-à-dire c'est l'histoire au fond de ce grand film de fiction qui vient d'avoir l'Oscar, qui est La vie des autres. C'est ça en documentaire.
Vous n'avez jamais été tenté, vous, par la fiction, Yelsan ?
Tenté par la fiction ? Non, la fiction me fait peur, parce que d'une certaine manière, je sens que j'ai un dialogue plus simple avec les gens, si vous voulez, pour être un petit peu, je dirais même mentin, les gens de la rue qu'avec ceux qui touchent des bons cachets.
Alors, évoquons un des aspects, hein, on pourra pas tout faire, mais de la structure de certains de vos films, et notamment de Pour l'amour du peuple, hein, qui est donc un film construit à partir d'images de la Stasi, donc en RDA avant 1989, mais au début du générique, on entend par exemple la voix de Sarkozy et des choses qui concernent plus la France. Je vais prendre aussi le cas d'Israland, où on part comme ça, on est embarqué immédiatement dans une alerte aérienne à Tel Aviv. Et puis après, c'est un film un peu plus posé, qui suit la construction d'un chantier, d'un lieu de loisirs en plein dans le désert. Il y a aussi dans Jérusalem, justement, le syndrome borderline. On a au début un psychiatre qui nous explique ce qu'est le syndrome de Jérusalem, où des gens se prennent pour le Messie. Et puis finalement, même s'il parle évidemment de gens que Jérusalem rend fous, qui viennent à Jérusalem parce qu'ils sont fous, on ne sait vraiment jamais, notamment pour des raisons religieuses. Enfin, ça parle de des raisons, mais on n'a pas de cas. Ce n'est pas un cas clinique de ce genre de gens. Donc à chaque fois, le spectateur, il est embarqué. Et puis après, hop, on part un peu sur autre chose. Ça correspond à quoi, cette manière de faire ?
Bah, ça correspond à deux choses. D'abord, ça correspond à l'idée que les prologues et la préface et la quatrième de couverture ne sont pas toujours ce qui représente le contenu du livre lui-même.
Mais il faut ça, accrocher, c'est quoi. C'est assez roublard.
Il faut accrocher. Mais quelles sont toutes ces accroches ? C'est-à-dire, si je regarde en arrière, comme ça, rétrospectivement, 11 films, 12 films, je ne sais pas quoi, je réalise a posteriori que tous, j'ai toujours cette inquiétude réelle qui est affirmée devant les spectateurs qu'il va voir un film. Il va voir une œuvre dans laquelle il y a une composition, c'est-à-dire il ne va pas rentrer dans, avec les panneaux qui disent « voilà Jérusalem », puis les travelling, etc. Non, que d'abord ils sachent qu'il y a là la présence de la caméra. Et dans toutes ces ouvertures que vous avez évoquées, il y a toujours quelqu'un qui s'adresse à la caméra, affirme que c'est une caméra, explique à la caméra. C'est-à-dire, d'abord, ce que je dis au début de tous mes films, c'est « tout ceci est devant une caméra ». C'est-à-dire, c'est pas, la caméra n'est pas absente de cette histoire. Vous rentrez maintenant dans un spectacle. D'abord dans un spectacle écrit, ça fait partie de l'affirmation d'un contrat avec les spectateurs. Ce n'est pas pour user devant les spectateurs, tout à fait le contraire. C'est-à-dire, ça, c'est des choses, toutes ces scènes que vous montrez, tout le monde peut remarquer qu'elles peuvent se faire, non pas dans les naturels, elles étaient manipulées au sens étymologique des termes, c'est-à-dire quelqu'un a mis les mains dans la cambouille pour les faire.
La caméra est toujours présente, et néanmoins, est-ce que je me trompe si des fois je dis qu'on a l'impression, quand on regarde vos films, que vous êtes plus amoureux encore de la parole que de l'image?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai réalisé, j'aime mettre la parole en image, c'est-à-dire... Si on pense aux 3 heures des entretiens avec le professeur Ishayahu Leibovitch, je trouve qu'amener la parole à qu'elle soit écoutée, c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire, au fond, on utilise des ruses d'image, tout pour cacher la parole. Et là, c'est de la parole. Et donc, ça m'habite. Comment faire pour pouvoir voir la parole? Et oui, j'aime la parole, absolument. J'aime la parole, j'aime la radio, beaucoup, beaucoup, j'aime la radio. Et en même temps, je...
Ça suffirait pas. Demande...
Non, ça suffirait pas, parce que j'aimerais voir les mots.
Dans ce film que vous avez consacré à Leibovitz, il dit un moment, l'histoire enseigne qu'on ne peut pas débattre, qu'on ne peut que se battre. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette phrase qui est quand même lourde, surtout dans le contexte proche-oriental?
Il le dit d'une façon extrêmement dure. Il dit « sur des valeurs, on ne peut pas débattre, on ne peut que combattre ». Et est-ce que je le prends à mon compte? Je la constate. Je constate que Leibovitch, il a raison. Et la question est comment on dépasse ça? C'est-à-dire comment, avec cette conscience-là, on arrive à construire un monde commun? C'est vrai. C'est-à-dire, on combat sur des valeurs. On débat pas sur les valeurs. Alors, il y a deux possibilités. Prendre la tendance occidentale, qui est la grande tendance aujourd'hui en Occident, c'est surtout faites pas de vagues. Surtout faites pas de vagues, puisqu'on sait que sur certaines choses, on ne peut pas s'entendre tout. Restons dans la stagnation, les débats... Lever la voix, c'est considéré vulgaire. Débattre, c'est considéré de la violence verbale, etc. Donc, il n'y a que certains qui ont le droit de le faire. Mais la majorité, tout de suite, ça, il faut arriver à des consensus. Moi, ça me fait peur. Je pense que l'espace public, c'est l'endroit de débat. L'agora, c'est quelque chose qui manque, justement, le fait qu'on ne débat pas. Et ce qu'il faut, c'est limiter l'idée de... passer du débat au combat. Et comment on fait dépasser les débats entre les passages de débat au combat? D'abord, c'est par accepter qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas de parole légitime et d'autres qui ont la parole légitime. C'est-à-dire, ce n'est pas en construisant des murs, mais en démolissant les murs. C'est-à-dire intégrer les maximums de possibilités à l'intérieur de débats. Mais quand on construit des murs, donc forcément on crée les combats. Donc je reprends les constats de Leibovitch à mon compte, j'essaie de le dépasser, et donc ça revient justement à ce qui est le rôle un petit peu de mettre sur écran ma parole, en l'occurrence, qui est un montage à partir des paroles des autres, c'est... les cinémas, la salle de cinéma, la projection, la continuation, l'extension de réalisateurs sur l'écran et l'écran vers le public comme un espace de débat.
Le dernier plan de votre documentaire Jérusalem, le syndrome borderline, et à propos de ce dernier plan, ce sera aussi la dernière question de notre entretien, revient sur le psychiatre qui expliquait ce syndrome, ce qu'était ce syndrome au début du film. Et là, il y a un travelling arrière et on voit apparaître un divan et sur le divan, une caméra. on peut le prendre comme une boutade après un film où là vous n'employez pas seulement l'analogie mais aussi la métaphore avec cette prostituée métaphorique de Jérusalem qui rend fou ses enfants illégitimes ou légitimes. On peut aussi se demander si c'est une manière de définir votre regard documentaire comme une volonté de braquer la caméra sur l'inconscient collectif ou alors encore supposer que votre travail de documentaire pourrait s'apparenter à un travail psychanalytique, mais là, plus personnel.
Écoutez, j'ai jamais utilisé la première personne dans mon film. J'ai jamais usé des commentaires. J'ai jamais utilisé les commentaires. Les jeux, les moi de la première personne. En même temps,
pas de voix
tous off. Les images, pas de voix off. Toutes les images que j'ai faites sont les miens et qui sont mon regard toujours avec des très grands chefs opérateurs, etc.
Ouais, Norita Vive dès le début.
Norita Vive de mon premier film, Ron Katzenelson, grand opérateur et autres, des Allemands, des Français, qui ont participé d'une façon ou d'autre. Donc j'ai toujours affirmé l'articulation de la parole et toujours affirmé point de regard sans nécessité de parler d'Eyal Sivan, la personne. C'est le regard d'Eyal Sivan qui est mis sur la place publique et non pas l'histoire personnelle d'Eyal Sivan. Et je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs quand ça aurait pu m'arranger dans certains cas. L'histoire d'Eyal Sivan, l'histoire de sa famille, etc., ne regarde pas les spectateurs. Donc il ne s'agit pas de faire une auto-analyse. Mais c'est vrai qu'il s'agit de mettre sur les divans aussi, nous mettre sur les divans, nous, les cinéastes, je pense qu'on est, on le fait pas assez souvent, et c'est poser la question des sens même, de participer à la fabrication de la quantité infinie des images dans lesquelles toute personne qui a joué dans sa vie avec des diapos sait que quand on accumule une diapo sur une autre diapo, sur une troisième diapo, à un moment, on rend les choses opaques, c'est-à-dire la mise en cause de notre travail d'accumulation des images qui a une volonté d'éclairer, parfois, rend les choses opaques. Et je pense que ça doit être la discussion sur les médias même qui est ce cinéma, et surtout le cinéma documentaire, n'est pas étranger au débat sur la Stasi, en l'occurrence, quand on parle de la Stasi ou la société des contrôles, n'est pas étranger de l'instrumentalisation de la mémoire. La question des effets spéciaux utilisés dans les films sur les procès Eichmann n'est pas séparée de la question de l'organisation technologique, la désincarnation humaine qui fait partie et l'obéissance et la question politique des procès Eichmann. C'est-à-dire que discuter du cinéma, discuter de qu'est-ce qu'est l'image, qu'est-ce qu'est la possibilité d'image, qu'est-ce qu'est la dangerosité de l'image, il est à l'intérieur. Oui, la caméra doit être mise sur les divans. Oui, le cinéma doit être mis sur les divans. Il ne doit pas échapper à la question de sa propre analyse, à sa propre analyse dans laquelle on sait bien que pour l'instant, on n'a pas brûlé de films comme on a brûlé de livres, mais on sait aussi que la responsabilité des cinéastes dans les cadres de l'histoire n'est pas reconnue. Tout le monde connaît cette histoire absolument étrange qui est qu'Hélène Riefenstahl, la grande cinéaste du régime nazi, est dénazifiée. Elle passe devant les commissions de dénazification à l'après-guerre. Elle est dénazifiée, on considère qu'elle n'est pas nazie. Elle continue à travailler. On l'enseignait dans toutes les écoles. C'est une grande cinéaste. Elle a apporté beaucoup au cinéma. Mais en même temps, il y a cette séparation totale entre les cinéastes, l'éthique cinématographique et sa présence publique que moi, je ne l'accepte pas et je paye les prix.
Merci infiniment à Armelle Laborie et merci aussi à Ronnie Broman et Audrey Morion. Tous les films d'Eyal Sivan sont disponibles sur le site de sa société de production, Momento. C'était Passeur de réel, Eyal Sivan, une émission proposée par Joseph Confavreux, mixage Noélie Pellegrin, réalisation Philippe Rouy.
C'était Sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Demain à 16h, troisième volet de la collection Passeurs de réel, consacré à Ariane Doublet.